Alors, on reprend avec maintenant la deuxième question qui se pose, et on va dire c'était le sujet d'aujourd'hui, même si on a pris beaucoup de temps pour le reste, mais c'était peut-être pas inutile. Donc, la deuxième partie de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12 jusqu'au chapitre 8, verset 4 ou 11, nous parle de la délivrance du péché. Donc, en fait, ça c'est une question qui se pose à nous, à chaque croyant. Nous avons été justifiés de nos péchés par l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais maintenant, comment est-ce que nous vivons? Est-ce que nous allons continuer à pécher comme avant? Est-ce que c'est grave si on pêche? Est-ce que c'est pas grave? Et est-ce qu'on peut être délivré de cette puissance du péché qui nous pousse à pécher? Donc, ça, c'est la question que traite cette deuxième partie de l'Épître aux Romains. Et on peut dire qu'elle la traite de cette manière-là. Elle la traite d'une manière doctrinale, enseignement. Du chapitre 5, verset 12, au chapitre 7, verset 6. Et puis, il y a une parenthèse. Chapitre 7, verset 7, jusqu'à la fin du chapitre 7. Et puis, avec le début du chapitre 8, on pourrait dire qu'il y a de nouveau la partie de l'enseignement, doctrine, qui reprend et qui termine, pour ainsi dire, le sujet. Donc, il faut bien comprendre, voilà, que d'abord, il y a les choses qui nous sont expliquées de façon doctrinale, et puis il y a aussi une parenthèse qui nous parle d'une expérience. Et donc, en fait, c'est un petit peu ça que on aimerait aborder maintenant. Que nous dit la partie de la doctrine, de l'enseignement, et que nous dira après la partie de l'expérience? Donc, maintenant que nous sommes justifiés, que nous appartenons au Seigneur Jésus, comment est-ce que je vais continuer à vivre? Est-ce que je suis sous la nécessité, sous l'obligation de pécher, ou est-ce que je peux être délivré de cela et vivre dans la sainteté? C'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, d'une manière qui soit agréable à Dieu. Alors, là, je pense en fait, on a été un petit peu ambitieux par rapport au programme. Donc, j'aimerais présenter la partie de l'enseignement sur le sujet en six étapes qui nous montrent en fait comment l'apôtre Paul il présente ce sujet d'une façon doctrinale. Alors, j'espère que quand on dit doctrinale, ça ne fait pas tout de suite un frein chez quelqu'un, mais la doctrine, c'est important. Alors, j'ai mis enseignement pour adoucir, mais c'est la même chose. La doctrine et l'enseignement, c'est la même chose. Et c'est nécessaire de comprendre l'enseignement pour ensuite avoir la pratique. Et on va voir d'abord donc l'enseignement. Alors, l'enseignement, on peut le présenter, c'est une façon de faire, là, je vais faire comme ça, sous six points que l'apôtre va présenter, six étapes, les unes après les autres, qui explique en fait comment est-ce qu'on peut vivre d'une manière agréable à Dieu, délivré du péché. D'accord? Donc quand on dit délivré du péché au singulier, il faut se représenter comme si le péché, c'était un maître dur et cruel qui nous oblige à pécher. Nous sommes comme les esclaves d'un maître qui est le péché, et ce maître, il oblige ses esclaves à pécher. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut être délivré d'un tel maître pour ne plus pécher? D'accord? Donc, d'abord, il y a le paragraphe, deuxième, dernier paragraphe du chapitre 5. Alors, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de lire ce paragraphe. Donc, je mentionne juste quelques points importants. Donc, ce paragraphe, il nous dit, en fait, il y a deux familles. Il y a deux familles. Et chacune de ces deux familles, elle a un chef, une tête, quelqu'un qui est à l'origine de la famille. Et ce chef, il donne à sa famille ce qui la caractérise. Donc, la première famille, c'est la famille d'Adam. Donc, c'est la famille de tous les hommes. Et donc, le premier homme, le chef de cette famille, c'est Adam. Et Adam a péché, a désobéi. Et en fait, ce qu'il a transmis à tous ceux de sa famille, c'est qu'ils ont hérité du péché et qu'ils ont donc péché et que donc ils sont morts. Donc, je résume. Il y a la famille d'Adam avec Adam à sa tête. Adam a désobéi. Et ce qui caractérise toute sa famille, toute sa descendance, c'est les péchés, le péché, la désobéissance, le péché et la mort. Tous ceux de la famille d'Adam, ils sont comme ça. Et il y a une autre famille, c'est la famille du Seigneur Jésus, la famille de Christ. Et nous appartenons, ceux qui croient au Seigneur Jésus appartiennent à cette famille. Et le Seigneur Jésus, lui, à la différence d'Adam, il n'a pas péché. Au contraire, il a accompli la justice, et en particulier sur la croix. Et donc, il donne à tous ceux de sa famille, il donne ses caractères de justification et de vie. D'accord ? Donc, il y a deux familles. La famille d'Adam, qui est marquée par le péché et la mort, et la famille du Seigneur Jésus, qui est marquée par l'obéissance du Seigneur Jésus, la justification pour nous, et que nous appartenons donc à cette famille-là. Je résume, peut-être pas très bien, cette dernière partie du chapitre 5 des Romains. Donc nous sommes dans cette nouvelle famille, en tant que croyants. Et puis, il y a le début du chapitre 6. Le début du chapitre 6, il nous dit ceci. Je lis quelques versets. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, qu'ainsi n'advienne, c'est-à-dire loin de nous cette pensée. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort. Verset 5. Si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Nous sommes morts avec Christ. Je lis simplement quelques versets. Donc, qu'est-ce que nous dit cette deuxième partie ? Elle nous dit que pour Dieu nous considère comme si nous sommes morts avec le Seigneur Jésus. Donc ça, est-ce que c'est vrai physiquement ? Est-ce que nous sommes morts avec le Seigneur Jésus ? Non. Mais c'est quelque chose que Dieu nous dit ici, dans ces versets. Il nous dit, vous qui croyez au Seigneur Jésus, qui appartenez à la famille du Seigneur Jésus, eh bien en fait, vous êtes morts avec le Seigneur Jésus. Vous êtes mort avec Christ. On l'a lu ça plusieurs fois. Et même il est dit, notre vieil homme a été crucifié. Il est dit que nous avons été, que nous avons été le vieil homme crucifié, nous sommes morts, et même il est dit, nous avons été ensevelis avec lui. Alors, c'est pas vrai. Je suis encore vivant. Je ne suis pas crucifié. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas enseveli. Mais si, pour Dieu, oui. Dieu nous voit comme crucifiés, comme morts, et même comme ensevelis. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau que Dieu nous dit, mais c'est quelque chose de très important. Dieu nous considère comme morts avec le Seigneur Jésus. Et donc, il y a, on l'a lu, verset 7, il est dit, « Celui qui est mort est justifié du péché. » Non pas des péchés, ce n'est pas la justification dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est, on va voir maintenant ce que ça veut dire, « Celui qui est mort est justifié du péché. » Donc là, c'est un peu plus difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire « je suis justifié du péché » ? En fait, ça veut dire que je suis libéré. Il faut voir que c'est justifié dans le sens qu'il y avait des obligations contre, vis-à-vis de moi. Et étant mort, je suis libéré de toutes les obligations que j'avais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez. Il y a un maître qui a un esclave. L'esclave, il meurt. Est-ce que le maître, avec son esclave mort, est-ce qu'il peut lui donner des ordres ? Il dit, fais ceci, fais cela. Est-ce qu'il peut le faire ? Il peut le faire, mais est-ce que le mort va lui obéir ? Non. Et donc, c'est pour ça que dans ce que nous dit la doctrine ici, c'est nous sommes morts avec Christ, et puisque nous sommes morts avec Christ, mais notre ancien maître, le péché, il peut nous dire ce qu'il veut, nous sommes morts. On ne va pas réagir, on ne va pas lui obéir, on ne va pas le suivre, nous sommes morts. S'il me dit, là tu peux mentir, je suis mort, je ne vais pas mentir. S'il me dit, là, tu peux désobéir à tes parents. Ils ne vont pas te voir. Ben non, je suis mort. Après, les adultes aussi ils commettent des péchés. Il n'y a pas que les enfants qui commettent des péchés. Mais vous voyez ce que ça veut dire ? Dieu nous considère comme morts avec Christ. Et puisque nous sommes morts, c'est comme si le péché, cet ancien maître qui nous tenait asservis comme des esclaves, eh bien, il peut nous dire ce qu'il veut. Nous sommes libérés de cet ancien maître. D'accord ? Donc ça, c'est un troisième point consécutif que la doctrine nous dit. Je le mentionne très rapidement, ça mériterait plus, mais voilà. Ensuite, il y a le verset 11 qui nous dit « De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Dieu nous considère comme mort avec Christ et comme aussi vivant à Dieu. Donc nous sommes morts dans un sens au péché, mais nous sommes, après cette mort au péché, nous sommes aussi vivants avec Dieu. D'accord ? Et donc, le verset 11 est une exhortation et nous dit, ben, considérez-vous comme des morts au péché et comme vivants à Dieu. Ça veut dire que si j'entends cette voix qui me dit désobéis ou fais ta propre volonté, ben, je vais dire, ben, moi je suis mort. Je ne peux pas, je suis mort. C'est comme si je suis mort, le péché il peut me dire ce qu'il veut. Ben, je suis mort, je ne l'écoute pas. Donc je me tiens pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. Je me considère comme comme mort. Puisque Dieu me considère comme mort avec le Seigneur Jésus, ben moi, je me considère aussi comme ça. Et donc, si le péché me demande de faire quelque chose, ben, comme un mort, je n'obéis, je réponds pas, je réagis pas aux sollicitations du péché. D'accord ? Alors là, je mentionne une petite histoire, je la relis, que j'avais lue. C'est l'histoire de George Wyatt et de Richard Pratt, pour illustrer cette idée d'être mort et les conséquences. Alors, j'ai noté quelque chose. C'était pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Un homme du nom de George Wyatt a été tiré au sort pour partir au front. Donc il a été enrôlé par le gouvernement, par les autorités, pour aller à la guerre. Il avait une femme et 6 enfants. Et un jeune homme du nom de Richard Pratt se proposa de partir à sa place à la guerre. Il dit, puisque toi tu as une femme et 6 enfants, moi je suis seul, ben, je vais aller à ta place. Pour pas que si t'arrive quelque chose de grave, tu laisses une femme et 6 enfants sans toi. Et donc, les autorités ont dit, d'accord, on prend Richard Pratt à la place de George Wyatt. Peu de temps après, Pratt fut tué au combat. Et plus tard, les autorités cherchèrent de nouveau à enrôler George Wyatt pour aller à la guerre. Et George Wyatt protesta, disant qu'il était mort dans la personne de Richard Pratt. Puisque Richard Pratt l'avait remplacé. Et puisque Richard Pratt était mort, George Wyatt dit, mais non, mais moi, c'est lui qui m'a remplacé, il est mort, je suis mort avec lui. Vous ne pouvez plus m'enrôler pour aller à la guerre. Vous devez me considérer, je me considère comme mort. Et donc il a insisté pour que les autorités consultent les registres pour savoir s'il était mort en s'identifiant à Richard Pratt, son remplaçant. Et les autorités ont dit, effectivement, George Wyatt a été identifié en Richard Pratt. Richard Pratt est mort. On considère George Wyatt mort dans la personne de Richard Pratt. George Wyatt n'a plus besoin d'aller à la guerre. Vous voyez ? Nous, ce n'est pas Richard Pratt qui est mort. C'est le Seigneur Jésus qui est mort. Et nous, nous sommes morts avec lui. Et puisque nous sommes morts avec lui, nous sommes libérés de tous les engagements, de toutes les obligations. Et nous sommes donc, on pourrait dire, libérés aussi des obligations du péché qui veut nous obliger à pécher. Nous sommes morts. Vous voyez, vous comprenez ce que ça veut dire ? Être, se tenir pour mort. Et donc, ensuite, si on lit Romains 6, il y a la partie à partir du verset 15 qui sont, il me semble, des exhortations liées à cet aspect-là, que nous nous tenons pour mort au péché et que nous nous tenons vivants à Dieu. D'accord ? Et puis après, il y a une autre section qui commence, chapitre 7, versets 1 à 6. Donc, on est étant mort au péché, nous sommes libérés du péché, de sa domination. Et maintenant, chapitre 7, c'est une autre question, c'est la loi. La loi. Est-ce qu'il faut se mettre sous la loi de Dieu, pour accomplir le bien et pour ne pas pécher ? La loi de Dieu, c'est, voilà, les commandements de Dieu. Alors c'est la loi de l'Ancien Testament, peut-être qu'on peut voir aussi le sujet d'une manière plus générale, sous toute forme de loi. Est-ce qu'il faut qu'on se mette sous une loi qui nous dit « ça tu fais, ça tu fais pas, ça tu fais, ça tu fais pas » pour plaire à Dieu et pour plus pécher ? Eh bien, c'est les 6 premiers versets du chapitre 7 qui traitent cette question. Et il nous dit en fait, mais la même chose. ils disent, mais un homme qui est mort, est-ce qu'il est sous la loi? Un homme qui est mort. Non, il n'est pas sous la loi. Donc en fait, alors je lis, chapitre 7, par exemple, le verset 1, « Ignorez-vous, frères, que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit ?» Et après, il y a l'exemple de l'homme et de la femme, avec le mariage, l'adultère, etc. Je ne veux pas trop entrer dans le détail. Mais donc, le principe, c'est « La loi a autorité sur un homme tant qu'il vit. » Quelqu'un qui est mort, vous pouvez lui dire, imaginez quelqu'un qui a volé toute sa vie, qui n'a jamais été pris par la police, il est mort, et on se rend compte que c'était un voleur. Est-ce que la loi peut le condamner? Ben non, il est mort. Dans un sens, il est libéré de la loi. D'accord? Eh bien, ça... La Bible nous dit, dans ces premiers versets de l'Épître aux Romains, verset 4, « C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » Verset 6, « Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus. » Donc, est-ce qu'il faut se remettre sous la loi? Non. Nous sommes morts à la loi. Donc, on n'est pas sous une loi. Pourquoi? Parce que la loi n'est pas bien, parce que la loi, c'était ancien, c'était trop sévère, c'était... Non, je ne suis pas sous la loi, parce que je suis mort. Comprenez? Ça, c'est très important de comprendre ça. Si je ne suis pas sous la loi, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec la loi, qu'elle est trop ceci ou trop cela. C'est tout simplement parce que moi, je suis mort avec le Seigneur Jésus. Et puisque je suis mort avec le Seigneur Jésus, ben je ne suis pas sous la loi. Parce que la loi, elle s'adresse seulement à ceux qui vivent. Mais moi, je suis mort. Donc je suis pas sous une loi. Je suis, comme il est dit, à quelqu'un d'autre. Je suis au Seigneur Jésus qui est ressuscité. On ne peut pas tout développer, mais retenons ce principe-là. Et puis après, il y a la parenthèse, on va revenir. Et puis il y a le début du chapitre 8, qui continue en fait l'enseignement, et qui nous dit, eh bien, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, je suis mort. Je ne suis plus obligé, étant mort, à écouter le péché. Et étant mort, je ne suis plus sous la loi. Mais je reçois quelque chose d'autre. Je reçois l'Esprit de Dieu, et Romains 8, verset 2 me dit, la loi de l'Esprit de vie, alors la loi, c'est pas la loi de... Il faut voir que dans Romains 8, verset 2, la loi, c'est pas la même chose que la loi dans le début du chapitre 7. C'est le principe, comme une loi physique. Un principe. C'est-à-dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si je lâche mon crayon, il fait quoi? Il tombe. C'est une loi. Donc, quand il est dit, verset 2, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, c'est l'action de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que avec l'esprit de Dieu que j'ai reçu, eh bien, je suis délivré du péché, de la loi du péché et de la mort, et je peux vivre d'une manière de vivre qui plaise à Dieu. Donc ça, c'est l'enseignement. D'accord? En résumé, j'appartiens à la famille du Seigneur Jésus, je suis considéré comme mort aux yeux de Dieu. Puisque je suis mort, je suis libéré de la domination du péché. Je me considère comme mort, je me tiens comme mort. Puisque je suis mort, je ne suis pas sous une loi. La loi ne me domine pas, parce que n'a pas autorité sur moi parce que je suis mort. Et je reçois l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, qui m'aide à vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu, libéré, affranchi du péché. Voilà, en résumé, la doctrine, l'enseignement. Donc on a vu l'enseignement en rapport avec la délivrance, l'affranchissement, donc avec ce fait que nous devons nous considérer comme Dieu nous considère. Et donc ça paraît simple, et en fait, dans notre expérience, eh bien, on se rend compte que comme si l'expérience, elle contredit l'enseignement. C'est-à-dire que dans la pratique, ben je réagis aux provocations, je cède aux tentations. Voilà, les provocations, les tentations, les stimulations en rapport avec le péché, eh bien ça, c'est comme si ça me touche encore. Et je pourrais dire, mais je ne ressens pas que je suis mort au péché. J'ai l'impression, en fait, comme si j'étais toujours vivant. Je ne ressens pas que je suis mort. D'accord ? Donc, on pourrait dire, mais cette expérience, ben, elle montre comme si elle contredisait l'enseignement. D'accord ? Et là, il y a c'est tous ces versets-là de Romains 7, verset 7, à Romains, jusqu'au verset 25, où on voit justement quelqu'un qui parle et quelqu'un qui a une expérience qui est le contraire de ce qu'on a vu. Au lieu d'être victorieux du péché, il est défait. Il a des défaites. C'est ce qu'on voit. Donc dans Romains 7, verset 7 jusqu'au verset 25. Donc par exemple, il y a ce verset 15 où il dit: ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Et il dit, verset 18, la deuxième partie, le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela, je ne le trouve pas. Le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Donc on voit quelqu'un qui en fait, il fait ce qu'il ne veut pas faire, et il fait même ce qu'il est, et ce qu'il aimerait faire, il n'y arrive pas. Il n'a pas la force pour faire ce qu'il aimerait faire. Et donc on voit, c'est comme quelqu'un qui est dans des sables mouvants et qui s'enfonce. Et il aimerait faire quelque chose, il n'y arrive pas. Il y a des choses qu'il ne veut surtout pas faire et il les fait. Et donc il est dans la tristesse, il est dans le désarroi, il est abattu. Et donc ça, c'est l'expérience en fait que cette personne fait et qu'elle raconte. Alors, la question c'est, alors si on lisait attentivement verset 7 à verset 25, on verrait que cette personne qui parle, elle fait différentes expériences et différentes découvertes. D'accord ? Mais des expériences et des découvertes qui sont difficiles à accepter. Alors, si on peut... Alors, première chose qu'on peut dire sur cette personne qui parle, cette personne, on le voit, elle est focalisée sur elle-même. Elle regarde en elle-même et elle dit, mais ça, j'aimerais le faire, je ne le fais pas. Ça, je ne veux pas le faire, mais je le fais quand même. Et on voit qu'elle est constamment occupée d'elle-même. Et c'est quelque chose qui la triste, qui la tire vers le bas, et elle est dans l'échec. Alors, je vais un peu vite. Donc on peut dire que cette personne qui parle en Romains 7, elle fait une série de découvertes. Première découverte, on peut dire, je vais la dire comme ça, elle découvre que la loi ne l'aide pas. Elle voit que, elle parle de la loi, verset 7 et jusqu'au verset 12, et en fait elle dit, mais la loi, elle ne me sort pas de là, elle fait que comme si elle réveillait le péché qui est en moi, elle me dit, ne fais pas ceci, et c'est comme si ça me donnait envie de faire ce qu'elle m'interdit, et donc en fait, la loi ne m'aide pas. C'est la première découverte qu'elle fait. Ensuite, on pourrait dire que, on l'a souligné, cette personne, elle est en échec. Ça veut dire quoi, elle est en échec? C'est qu'elle veut faire des choses et elle ne les fait pas. Il y a des choses qu'elle ne veut pas faire et qu'elle fait. On a lu quelques-uns de ces versets. Donc en fait, la loi ne l'aide pas. Elle-même, elle échoue dans ce qu'elle veut faire. D'accord ? Ensuite, elle découvre que la loi quand même, mais la loi ne l'aide pas, mais la loi est juste. Elle comprend, la loi est sainte, le commandement est saint, est juste et bon. Et le problème, il ne vient pas de la loi. Parce que la loi, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne. Et si la loi me condamne, elle a raison. Le problème, il n'est pas du côté de la loi. Dieu, par la loi, a raison de me condamner en rapport avec le mal que je fais. On pourrait dire. Et puis, cette personne découvre quelque chose d'autre. Verset 17. Elle dit, maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, donc le mal qu'elle ne veut pas faire, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est un verset très important. Donc en fait, cette personne, elle arrive à une découverte importante. Elle dit, mais le mal que je commets, que je ne veux pas commettre, mais que je commets quand même, ben, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire qu'elle découvre qu'elle a deux natures. Une mauvaise nature et une bonne nature. La mauvaise nature qu'elle a en elle, c'est le péché, comme elle dit, le péché qui habite en moi. Et elle est croyante, elle veut faire le bien, c'est-à-dire qu'elle a la vie de Dieu en elle qui lui donne envie de faire le bien. Mais elle découvre que, en même temps qu'elle a cette nouvelle nature et qu'elle veut faire le bien, il y a autre chose. Elle a une mauvaise nature, le péché qui habite en moi. Donc ça, c'est important. Le croyant, il a le péché qui habite en lui. C'est vrai. Et il faut le comprendre, il faut le reconnaître. D'accord ? On a été justifié, on a vu tout ça, tout ce qui est merveilleux en rapport avec l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais on découvre, et dans la vie pratique, par l'expérience, que, mais il y a toujours le péché qui habite en moi. D'accord ? Et ça veut dire que quand on croit au Seigneur Jésus, cette vieille nature, le péché qui habite en moi, il ne disparaît pas. Cette vieille nature, elle ne disparaît pas. Elle est toujours là. Et cette vieille nature, elle ne s'améliore pas. Elle ne disparaît pas, elle ne s'améliore pas. Elle est toujours là et est toujours aussi mauvaise. Et c'est ce qu'il dit, verset 18, il dit « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. » Donc ça, c'est très fort. Il dit « J'ai une nouvelle nature qui veut le bien, j'ai une ancienne nature qui veut pécher, et en moi, il n'habite rien de bon. Rien de bon en moi. » Ça, c'est c'est dur. C'est très dur ce constat, mais il est nécessaire. C'est-à-dire, dans mon être naturel, dans mon cœur naturel, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Ça, c'est important. Cette personne, elle fait cette découverte-là. Et puis, elle va dire autre chose, une autre découverte qu'elle fait. C'est le verset 24, elle dit, après avoir fait ces différentes expériences ou découvertes, elle finit par dire « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc elle dit « Moi je suis misérable. » Pourtant cette personne-là, c'est une croyante. Elle aspire à plaire à Dieu. Elle veut plaire à Dieu. Donc ce n'est pas une incrédule, c'est une croyante qui a la vie de Dieu en elle et qui veut faire le bien. Mais elle dit quand même, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ça veut dire qu'elle découvre qu'elle a besoin d'un libérateur. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et c'est un libérateur extérieur. Elle-même, elle est comme, elle s'enfonce dans les sables mouvants et elle a besoin de quelqu'un qui vienne la tirer de là. D'accord ? Donc, elle réalise qu'elle a besoin d'un libérateur extérieur et elle dit, verset 25, « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est qui le libérateur ? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord ? Donc elle fait, par l'expérience, elle fait ce cheminement-là. Et elle finit par découvrir, qu'elle-même, elle ne peut pas, par ses propres efforts, sa propre motivation, etc., elle ne peut pas, elle a besoin de quelqu'un d'autre qui vienne la libérer. D'accord ? Et elle réalise que cette autre personne, ce libérateur, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et après, elle dit, début de Romains 8, donc on va dire, la parenthèse de Romains 7 se termine, on revient au début de Romains 8, et elle peut dire, c'est un peu la conclusion de la doctrine et de l'expérience, elle dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Donc elle réalise que elle est maintenant dans le Christ Jésus et que étant dans le Christ Jésus, il n'y a aucune condamnation. Elle dit, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que elle avait besoin d'être d'un libérateur. Elle a dit, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et elle réalise en fait que c'est par l'esprit de vie dans le Christ Jésus qu'elle est affranchie de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que c'est qu'elle a reçu une puissance affranchie de la loi du péché et de la mort. Donc ça, c'est la clé. C'est qu'elle réalise que si elle essaye elle-même, elle n'y arrive pas, et c'est échec sur échec. Et qu'en fait, la délivrance, c'est l'Esprit de Dieu. La puissance, elle n'est pas en elle-même, la puissance, elle est dans l'Esprit de Dieu. D'accord ? Il y a quelqu'un qui a utilisé un exemple en disant, imaginez qu'il y a un train dans une gare. Et puis, il faut déplacer le train. Et on dit à toutes les personnes qui sont sur le quai, poussez le train pour le déplacer un peu. Alors, ils se mettent à pousser le train très, très, très difficilement. Ils arrivent à le faire avancer un tout petit peu. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, le conducteur du train. Il prend la clé, il entre dans la locomotive, il met le contact et il fait avancer le train facilement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a pas cherché à utiliser ses propres forces. Il a trouvé la force ailleurs, dans le moteur. Alors que les autres, ils ont cherché la force en eux-mêmes pour pousser. Voyez un peu cette illustration ? Bien pour nous, en tant que croyants, c'est les forces, elles ne sont pas en nous, elles sont dans l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu qu'il faut laisser agir. Et lui, il va faire en sorte que nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Ce n'est pas par nos propres efforts, en regardant en nous-mêmes, en s'occupant de nous-mêmes, en voyant « Ah, mais ça, je fais ceci, je fais cela. » La délivrance, l'affranchissement, il est dans la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comment il agit ? Eh bien, il agit un peu comme on a vu au début. Le Saint-Esprit, il va agir dans nos vies en nous occupant du Seigneur Jésus. Il ne va pas nous occuper de nous-mêmes. La personne en Romains 7, elle est occupée d'elle-même et c'est échec sur échec. Le Saint-Esprit, il va nous occuper de quelqu'un d'autre, du Seigneur Jésus, et là, on va avancer par la force du Saint-Esprit. Et on va être affranchi de la loi du péché et de la mort. D'accord ? Donc la victoire, la délivrance sur le péché, c'est dans la puissance, c'est par la puissance du Saint-Esprit, pas par nos propres efforts. Et le Saint-Esprit, il va agir en particulier en nous occupant du Seigneur Jésus. Et en étant occupé du Seigneur Jésus, on va être victorieux. D'accord ? Je peux dire quelque chose d'autre. Bon. Voilà, je fais juste un petit résumé de ce qu'on a vu. J'arrête. Le résumé de l'Évangile. Par l'œuvre du Seigneur Jésus, je suis justifié devant Dieu, en rapport avec tous les péchés que j'ai commis. Par l'œuvre, merci. Par l'œuvre du Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, je suis considéré comme mort avec Christ. Je reçois une nouvelle vie, la vie de Dieu. C'est cette vie qui veut faire le bien. Mais je reçois aussi une puissance, c'est le Saint-Esprit. Et on va dire, la nouvelle vie, elle a tous les bons sentiments, toutes les bonnes affections, tous les bons sentiments, mais elle n'a pas de force. La force, c'est celle du Saint-Esprit. Donc moi, ma responsabilité, en quelque sorte, c'est de laisser le Saint-Esprit agir. S'il y a quelque chose dans ma vie qui attriste le Seigneur Jésus, je le confesse, je le confesse à Dieu, et après, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Je n'agis pas par mes propres efforts, par mes propres résolutions, par mes propres décisions. Si j'ai fait quelque chose de mal, je le confesse, et je laisse l'Esprit de Dieu agir. Et très important aussi, c'est ce qu'on avait vu dans l'Évangile, je reçois, pour dire ça comme ça, un nouvel objet pour mon cœur, le Seigneur Jésus. Un objet, ça veut dire quelqu'un qui occupe mes pensées et mes affections. Donc ça, c'est, on pourrait dire, le résumé de l'Évangile. Justifié par l'œuvre du Christ, mort avec Christ, avec une nouvelle vie, une nouvelle puissance et une personne qui captive mon cœur. Et ça, on pourrait dire, c'est résumé par une expression, il est dit dans Romains 6, « Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Et ça, on peut dire, être sous la grâce, c'est jouir de tout ça. Et c'est tout ça qui nous rend victorieux de la puissance du péché dans nos vies. Donc la force, elle n'est pas en moi, ce n'est pas en m'occupant de moi-même, en prenant des bonnes résolutions, en étant motivé, décidé, que je vais réussir à vivre une vie qui soit agréable à Dieu. Non, je réalise qu'il n'y a pas de force en moi et que la force, elle est seulement dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va toujours m'occuper du Seigneur Jésus. Sauf si j'ai péché, il va m'amener à confesser mon péché, mais après, je confesse mon péché et je pense à quelqu'un d'autre. Et là, je vais avoir une vie heureuse, une vie victorieuse. Voilà, c'était un petit peu rapide, la partie de l'affranchissement, de la délivrance. Et il y a un beau verset qui résume peut-être ça. « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »